Bonjour et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Je m'appelle Jean-Noël, je vous retrouve tous les samedis entre 12h et 13h pour l'émission Biotine, l'émission d'actualité scientifique. Vous nous écoutez sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. L'actualité scientifique est encore riche cette semaine et c'est ce que je vous propose dans cette émission d'une petite heure pour essayer de feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. C'est tous les samedis à 12h et c'est la rediffusion le mardi à 10h. Bonjour à tous, on va commencer par l'éphéméride, bien sûr, de ce 4 mars. Et on avait la revue Natural Structural and Molecular Biology, j'aime bien parler anglais, ça l'annonce le 4 mars 2019, donc il y a 3 ans, de la découverte d'un anticorps capable de lutter efficacement contre les 3 souches du virus Ebola touchant l'être humain. Effectivement, on était sur une découverte vraiment intéressante. Alors bien sûr, depuis, la recherche avance bien sûr, mais il y a 3 ans, c'était une découverte intéressante. Naissance, le 4 mars 1914 de Robert Wilson, physicien américain qui a été chef de projet lors du projet Manhattan et l'un des responsables de la création du Fermilab. Il était également le directeur de ce Fermilab. En 1945, après que le Troisième Reich avait capitulé, Wilson remet en question la pertinence du projet Manhattan. Cependant, les recherches continuent et donc dans ces dernières années, Wilson mentionne qu'il aurait dû démissionner à ce moment. Après les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, Wilson participe à la création de l'ALAS, c'est l'association des scientifiques de Los Alamos, et qui demande un contrôle international de l'énergie atomique, une pétition qui avait été remise au président américain de l'époque, Truman. Et donc, naissance de Robert Wilson, le 4 mars 1914, il est mort en l'an 2000, physicien américain qui participait à ce projet Manhattan. Décès le 4 mars 1948 de Lucien Rouzet, physicien et inventeur français. Il était télégraphiste lors de son service militaire et il va prolonger celui-ci pour contribuer à doter l'aviation de son invention la plus importante, un système de TSF qui permet des communications aéronautiques à des distances inégalées à l'époque. Cette invention va jouer un rôle capital pendant la guerre de 14-18 et cela est dû à ce physicien et inventeur français Lucien Rouzet, décédé le 4 mars 1948. Pas mal donc d'actualités scientifiques que l'on a. On a des fois des choses un peu plombantes, un peu lourdes, et puis des fois un petit peu porteuses d'espoir, même s'il faut quand même prendre cela avec beaucoup de pincettes. Et notamment cette question, et si la prise d'un seul médicament suffisait à ralentir le processus de vieillissement, ça serait la rilménidine qui est testée en laboratoire, notamment sur des vers, et qui est actuellement largement prescrite pour traiter l'hypertension chez l'humain. Et par rapport à d'autres médicaments déjà testés pour la longévité, les effets secondaires de ce médicament sont rares et ne sont pas graves. Les chercheurs de l'université de Liverpool montrent que le traitement du vert avec la rilménidine à des âges jeunes et plus avancés augmente la durée de vie, améliore les marqueurs de santé. Ça imite ainsi les effets de la restriction calorique. Alors la diminution de l'apport énergétique est connue pour son effet anti-vieillissement chez toutes les espèces, car cette opération ralentit le métabolisme et réduit le stress oxydatif. Et ce stress oxydatif, ça favorise le vieillissement des cellules. Et les maladies qui sont liées à l'âge, comme la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Toutefois, les chercheurs affirment que les études sur la restriction calorique chez l'humain ont présenté des résultats mitigés ainsi que des effets secondaires. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et donc, pour l'étude qui a été publiée dans la revue Aging Cell, les scientifiques ont recherché des composés connus qui provoquent une signature d'expression génétique similaire à la restriction calorique. Et il démontre justement que la résistance au stress, la durée de vie et les avantages du traitement à la rilménidine chez le ver, sont quand même assez intéressants. Il y a des précédents travaux sur le vieillissement de la population mondiale qui avaient été menés. Et d'après ces travaux, les personnes de plus de 65 ans constituent aujourd'hui le groupe démographique dont la croissance est la plus rapide dans le monde. C'est-à-dire que le monde vieillit de plus en plus, d'une façon au niveau de l'échelle planète. terre, bien sûr. Or, avec l'âge viennent les maladies chroniques et les décès, bien sûr, liés à l'âge. Et retarder le vieillissement, ça présente, bien sûr, des avantages. Avec une population mondiale vieillissante, eh bien, les avantages de retarder le vieillissement, même légèrement, sont immenses. La reprogrammation de médicaments capables d'allonger la durée de vie et l'état de santé présente un énorme potentiel inexploité dans le domaine des gérosciences translationnelles. Gérosciences, donc, c'est l'essence du vieillissement. Hein. Et c'est ce qu'a déclaré dans un communiqué le professeur Magalès qui a dirigé les recherches à l'université de Liverpool. Je vais y arriver. Ce domaine de recherche, en fait, ça consiste à mieux connaître la biologie du vieillissement et donc d'espérer prolonger le nombre d'années à vivre en bonne santé en retardant l'apparition des pathologies liées au vieillissement. Alors, il y a beaucoup de preuves qui ont démontré que le taux de vieillissement peut être nettement ralenti dans des organismes modèles. Et donc, les bons résultats de cette rilménidine justifient désormais de nouvelles pistes de recherche sur ce composé. C'est un médicament prescrit pour traiter l'hypertension qui pourrait donc contribuer à ralentir les effets du vieillissement et à prolonger la durée de vie. Alors, bien sûr, on est au début d'une étude, donc on n'est pas sur le remède miracle approuvé que tout le monde va prendre, bien évidemment. Mais bon, ça donne des pistes assez intéressantes et ça mérite d'en savoir un petit peu plus, bien sûr. On suivra ça, bien sûr, parce qu'on veut vivre vieux et en bonne santé. On est comme tout le monde, on est comme tout le monde.
Joël.
Oui, maître.
Que fais-tu ?
Rien, maître.
Qu'est-ce que c'est que cette odeur ?
Je ne fais que d'une feuille, dans ma tête je sens les failles. J'emmènerai dans mon cercueil un petit bout de truc et de la taille. Je suis devant mon ordi, mais le temps s'est arrêté. Je fais que des tourneries et jamais ça va s'arrêter. Fumette qui frappe et groupe de rap. Digger des 90, Tierno qui fume 8-6. Ça tourne en rond, ça n'a pas de sens. Paradis artificiel, tous les jours je fais du sale. S'arrêter c'est difficile, continuer c'est suicidaire. Faudrait que j'arrête de fumer des wash. Putain mais c'est tellement bon. C'est pas bien. Faudrait que j'arrête de fumer des wash. Putain mais c'est tellement bon. Faudrait que j'arrête de fumer des wash. Putain mais c'est tellement bon. C'est pas bien. Faudrait que j'arrête de fumer des wash. Putain mais c'est tellement bon. Putain mais c'est tellement bon. J'sais que j'ai mis mon petit boutique, il se trouve pas. Je fais des dégâts comme un rat d'égout. J'étais certain de l'avoir mis là, j'étais certain de l'avoir mis là. Mais en fait il était là, putain super cool, j'enroule un gros, ça fait pif pouf dans le ciel. Quand j'ouvre mon logiciel, me sens plus seul, c'est l'étincelle, c'est mieux que soul. Je trouvais l'universal, j'étais dans l'univers seul. Je suis l'ours color gol, je suis dans l'universel.
Faudrait que j'arrête de fumer des wash, putain mais c'est tellement bon.
Je craque ma thune dans le shit. Pas de musique sans le shit. Toute la journée dans le shit. Qu'est-ce que je ferais sans le shit? Je sers à rien sans le shit. Je me sens pas bien sans le shit. Tout paraît fat sans le shit. Je m'amuse pas sans le shit. Je parle pas sans le shit. Je comprends pas sans le shit. Je respire pas sans le shit. Je t'abandonnerai pour le shit. Je me castrerai pour le shit. Je me suiciderai pour le shit. Je t'écraserai pour le shit.
C'est pas bien. Faudrait que j'arrête de fumer des wash. Putain mais c'est tellement bon.
tellement bon. C'était Stupéflip sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informés de l'actualité scientifique. On parle un petit peu de tous les domaines, même les croyances dans le paranormal. Selon une enquête publiée en 2019, un quart des Français pensent avoir déjà vécu une expérience paranormale. Les croyances dans les esprits, les fantômes, les extraterrestres ou encore la vie après la mort sont donc tous sauf marginales, elles sont aussi tout sauf récentes, même si le paranormal connaît un regain de visibilité chez les adolescents, les jeunes adultes, notamment par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de ces moments surréalistes qui ont lieu la nuit. Et c'est ce qui a poussé une équipe de chercheurs en psychologie à Londres à mettre en parallèle les croyances paranormales avec les problèmes de sommeil. Et ils publient leurs conclusions dans le Journal of Sleep Research. L'enquête a été lancée par un magazine centré sur la science et la technologie qui s'appelle BBC Science Focus et un site internet sur lequel les participants ont répondu à plusieurs questions concernant la qualité de leur sommeil et leur croissance dans le paranormal. Ils ont dû répondre à 6 questions comme par exemple « Croyez-vous à l'existence des fantômes ?» en ayant le choix entre des réponses allant de « pas du tout » à « tout à fait ». Parmi les plus de 8000 personnes qui ont complété le questionnaire, ils sont entre 3 et 12% à avoir renseigné une croyance forte dans le paranormal selon la question. Par exemple, 12% des répondants disent croire fermement à la persistance de l'âme après la mort. Ils sont un peu plus de 3% à penser que les expériences de mort imminente sont la preuve d'une vie après la mort. Et 8% à croire aux fantômes. Mais quand les scientifiques ont croisé ces réponses avec les troubles du sommeil, notamment la paralysie du sommeil et le syndrome de la tête qui explose, ils se sont rendus compte que les personnes concernées ont plus tendance à croire à l'existence des extraterrestres et à leur présence sur Terre, à la vie après la mort ou à la persistance de l'âme que celles qui ont un sommeil un peu plus calme. La plupart des associations entre croyances paranormales et qualité du sommeil sont linéaires, c'est-à-dire que plus la croyance est forte, plus la qualité du sommeil rapportée est mauvaise. Mais pour d'autres, l'association est quand même un peu plus complexe. Alors cette étude ne met en avant qu'une association entre les deux phénomènes, hein, bien sûr. Bon nombre de personnes avec un sommeil difficile ne croient pas aux aliens ou à la vie après la mort, bien sûr. Néanmoins, ces résultats s'inscrivent dans la même veine que des études qui avaient été menées sur le sujet par le passé. Alors pour essayer de comprendre, les scientifiques propose une hypothèse qui reste à être validée. Certaines croyances paranormales, comme l'existence des fantômes ou des démons, pourraient rendre anxieux les personnes concernées et peser sur leur sommeil. Cette explication a des limites parce qu'il y a certaines croyances qui semblent rassurantes, comme par exemple la vie après la mort. Ce qui n'a pas étudié ici et qui a été aussi son importance, c'est la présence de maladies mentales chez les patients ou leurs croyances religieuses. Bref, c'est un sujet qui n'a pas fini d'intéresser les scientifiques. Et voilà, on est sur encore sur quelque chose qu'on n'arrive pas nécessairement à bien cerner, on va dire. Et du coup, les croyances paranormales se diffusent dans les sociétés humaines depuis des siècles. Et malgré les progrès de la science, elles sont toujours d'actualité. Donc on essaye voilà, de trouver des explications, des liens. Donc là, il y a un lien, ça ne veut pas dire que... Enfin, il y a un lien. On ne sait pas si c'est un lien de cause à effet. Il y a un lien entre le paranormal et les problèmes de sommeil, apparemment. À suivre, bien sûr, pour en savoir un petit peu plus. Au niveau médecine, toujours, et cette fois au niveau de la mucoviscidose, on a cette information assez intéressante. On rappelle que la mucoviscidose, pardon, c'est une maladie génétique. La maladie génétique la plus fréquente, avec environ 6000 personnes concernées en France, elle est provoquée par des mutations dans un gène qui code pour une protéine. Et ces mutations, eh bien, ça va réduire fortement ou ça va même inhiber l'expression de la protéine. Il en résulte l'apparition des problèmes respiratoires et digestifs typiques de la mucoviscidose. Il y a quelques mois, l'autorisation du Kaftrio a permis d'améliorer la vie d'une partie des malades, mais ce médicament n'est pas efficace contre toutes les mutations génétiques responsables de la mucoviscidose. Dans environ 10%, le patient est porteur d'une mutation contre laquelle le Kaftrio ni aucun autre médicament ne peut rien. Mais l'espoir est permis grâce aux travaux d'un chercheur à l'INSERM dans le laboratoire hétérogénéité, plasticité et résistance des cancérothérapies. thérapie. Ce chercheur s'appelle Fabrice Lejeune et son équipe, ils explorent le potentiel d'une molécule issue d'un champignon très commun et comestible. C'est le clitocybe inversé. Et donc, on a identifié une molécule dont je vous épargne le nom. On va prendre son nom, abrégé, qui est la DAP. Et cette DAP, cette molécule, a montré sa capacité à réparer les mutations et à soulager les symptômes de la mucoviscidose dans plusieurs modèles précliniques. Les résultats sont parus dans la revue Molecular Therapy. Les mutations bloquent justement la synthèse des protéines et du coup, l'enzyme responsable de la traduction va arrêter la construction de la protéine. Et des travaux avaient montré par le passé que cette molécule, la DAP, permettait de forcer justement cette traduction des protéines et une traduction complète. Et du coup, on s'était dit que ça pouvait être une piste assez intéressante. Et pour s'assurer de l'efficacité de cette DAP dans le contexte de la mucoviscidose, eh bien, l'équipe de Jérôme Lejeune a réalisé une série d'expériences sur des cellules issues de patients, sur des souris de laboratoire également, et notamment chez des souris porteuses de la mucoviscidose. Il y a eu un traitement avec la DAP qu'on a administré par voie orale et qui permet de diminuer significativement les symptômes de la maladie. Il y a également des souriceaux qui ont pu être traités à l'intérieur de l'utérus des souris, même si on a un peu l'impression que ce mode d'administration semble provoquer de la toxicité pour les fœtus. En tout cas, on a eu des résultats assez intéressants parce que ça permettait de restaurer l'expression du gène qui était concerné par cette maladie et ça permettait aussi de produire la protéine fonctionnelle. Et donc, tous ces indices suggèrent que cette molécule, la DAP, issue de ce champignon très commun, pourrait être une candidate sérieuse pour soigner la mucoviscidose chez l'humain. Et donc, ça justifie l'organisation, cette fois, d'un essai clinique pour s'assurer de l'efficacité chez des patients. Les chercheurs travaillent encore à trouver la meilleure formulation et le bon dosage, ainsi qu'à s'assurer, bien sûr, de l'innocuité de la DAP avant de passer à l'étape suivante. Il y a d'autres maladies génétiques provoquées par les mutations qui pourraient aussi bénéficier de cette avancée. On n'en est qu'au début, bien sûr, de cette étude qui va se poursuivre et on va maintenant pouvoir essayer de mener une phase d'expérimentation à plus grande échelle et notamment sur l'homme. Il n'empêche que la recherche avance vite pour soigner la mucoviscidose et que là, on est sur une piste, une solution thérapeutique assez prometteuse, assez intéressante avec cette molécule qui serait donc extraite d'un simple champignon qui permettrait donc de soigner la mucoviscidose. À faire à suivre, bien sûr, parce que c'est assez prometteur et on ne parle pas souvent de mémoire de la mucoviscidose, en tout cas des recherches sur la mucoviscidose dans cette émission. Ça ne veut pas dire que la recherche n'avance pas, ça veut dire qu'il n'y a pas nécessairement de communication qui est faite à ce sujet. Et donc là, il y avait un sujet vraiment intéressant, c'était tout l'intérêt de pouvoir l'évoquer dans cette émission. Vous écoutez Biotine sur l'antenne de Graphite, un peu de science et un peu de musique.
Mon gars, va pourquoi tu trembles, pourquoi tu tanques, tu tiens plus droit. Je dois capter des gens dans la soirée, écrit sur mon emploi du temps. Tu te poses des questions dans les toilettes, tu te poses des questions devant moi comme les douaniers. Slide un salaire de 4 sur le poignet. Le respect se perd, il a canné. Yeah. Je suis très calme en général de guerre. Toute la journée ou très tard, je sais. Mon bébé, si je prends millions de liasses, je deviens direct plus mignon, je yasse. C'est pas cool de leur souhaiter la mort. S'ils continuent comme ça, mon frérot dit qu'ils vivront de moi. Un peu moins en fonction de ce qu'ils diront de moi. Je prends la vie par le chignon, je maille. Je prends la vie par les vaches ou la taille. Tu préfères la défense ou la table. Dans les deux cas, je sors les canons. La concurrence est morte sous la table. Je suis en avance de 2 ans sur l'heure de ta mort. Si j'ai le mort, je vais laisser qu'une odeur de cadavre. T'as juré sur l'honneur de ta race. T'as perdu, je suis dans le cœur de ta maman. Si t'as, je fais du beurre ou un meurtre d'habillage. Ça se passe clairement à fond quand c'est pas moi qui rappe. Viens, on ride la moto d'Akira. J't'ai servi le meilleur plat, dit Ita Takimas. Pourquoi tu t'es pris pour c'est pas quoi? Y'aura personne pour sauver ta poire. Si vous faites pas le truc correctement, cette vie vous baisse très très fort et vous laisse à poil. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ok, slam, slam. Ok, tu vois ce que je veux dire? Non, ok, slam, slam. Ok, tu vois ce que je veux dire? Non, ok, slam, slam. Ok, tu vois ce que je veux dire? Non, ok, slam, slam. Ok, tu vois ce que je veux dire? Si t'es ici ou là, moi je suis là-bas. Je suis sur le galion, va te noyer sur la barque. Tout l'amour est sur madame. On a fait ce qu'il fallait pour fuir la dalle. Si t'es ici ou là, moi je suis là-bas. J'suis sur le galion, va te noyer sur la barque. Tout l'amour est sur madame. On a fait ce qu'il fallait pour fuir la dalle. Y'a des gens qui sont costauds de nez, sans autres qui disent qu'ici y'a trop de mets. Sans je vois le verre à moitié plein, je le dé. Sans je vais augmenter le ratio de mes chances. Enfoiré t'es pas libre parce que ton banquier te fait des sourires quand t'es à des coups. Vert, suis le chaud, mon fils sortez les poux. Belle, suis la preuve, vous prêt à la découper. Celle qui m'a vu naître a pas d'a priori. J'suis dans le cabriolet, j'écoute Cabrioli. Dans mon secteur, les nambos sont pas bioniques. Il a perdu son âme quand il a dit all-in. J'suis la fusion Nirvana et Wu. Et Udra, j'ai dit voilà mais où t'es. Je me suis battu contre Draman et U. Go, aucune diff entre une droite et une gauche. Maria du coup quand t'es pas ready. Elle a gobé et élargi sa rétine. Pour un X ou un Wico ça ready. Les petits sont traits du père, c'est pas internet qui ira les éduquer. J'ai ramassé du pèse mais j'ai laissé du terre. Je suis insolent, je fais goûter du texte. J'm'inscris au main event, t'es dégoûté du père. Ma guitare c'est un fusil, un RPG. J'ai pris un Uzi au RTV. Préviens tes cousines, ramène toutes tes fesses. Mon album va déclencher la haine des frères. Ma guitare c'est un fusil, un RPG. J'ai pris un Uzi au RTV. Préviens tes cousines, ramène tes fesses. Mon album va déclencher la haine des frères. Ça, ok, tu vois ce que je veux dire. Ok, ça, ok, tu vois ce que je veux dire. Ok, ça, ok, tu vois ce que je veux dire. Ok, ça. Ce que je veux dire, si t'es ici ou là, moi je suis là-bas. J'suis sur le galion, va te noyer sur la barque. Tout l'amour est sur madame. On a fait ce qu'il fallait pour fuir la dalle. Si t'es ici ou là, moi je suis là-bas. J'suis sur le galion, va te noyer sur la barque. Tout l'amour est sur madame. On a fait ce qu'il fallait pour fuir la dalle.
Slide, c'était Sopico sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez tous les samedis entre 12h et 13h et tous les mardis pour la rediffusion à 10h. Beauty, l'émission d'actualité scientifique sur graphite.net, sur Internet, avec aussi la possibilité de pouvoir récupérer les podcasts. Comme ça, vous nous écoutez quand vous le souhaitez. Et bien sûr, sur la bande FM 94.9 pour ceux qui habitent l'Aisne, l'Oise, la Somme. Plusieurs petites brèves de science et avenir au niveau médecine et santé. On apprend que la dépression vient aussi du ventre. 13 familles de bactéries intestinales ont pu être associées à l'apparition de symptômes dépressifs. La négativité, la perte de poids, la dégradation du sommeil. Ça a été révélé par une équipe de l'université d'Amsterdam. C'est en fait le résultat d'une analyse des microbiotes intestinaux de plus de 2500 individus. Les scientifiques révèlent que ces bactéries sont capables de synthétiser des molécules essentielles à l'organisme. Et notamment le butyrate et la sérotonine qui sont impliqués dans l'axe de communication intestin-cerveau. Et ça permet aussi de produire du glutamate qui est largement distribué dans le cerveau et qui est un neurotransmetteur du système nerveux et qui contrôle également le tube digestif. Et donc c'est la perte de diversité de la flore qui rendrait leur présence nocive, et cette perte de diversité bactérienne va modifier l'équilibre des molécules essentielles à l'organisme et du coup pourrait provoquer ces états dépressifs. Autre information, et toujours dans l'intestin, selon une hypothèse assez étonnante qui nous vient de l'hôpital Cedars-Sinai à Los Angeles aux États-Unis, le symptôme de l'intestin irritable qui touche 5% de la population française, eh bien ce syndrome serait dû à une intolérance aux forces gravitationnelles, la faiblesse des structures responsables du maintien de nos viscères, c'est-à-dire les muscles, les tendons, les ligaments. Eh bien tout ça contribuerait aux diarrhées, aux constipations, aux crampes abdominales caractéristiques de ce syndrome de l'intestin irritable. Et pour étayer cette piste, eh bien l'étude suggère même de sonder les réactions des patients sur des montagnes russes. Donc ils vont essayer de faire une expérience grandeur nature avec des personnes atteintes de ce syndrome qu'on voit envoyer sur des montagnes russes et voir un petit peu la réaction sur ce qui se passe dans leurs viscères. C'est assez intéressant, moi je dis, je ne sais pas, on peut affaire à suivre. Toujours au niveau médecine, Il y a une piste assez intéressante qui concerne la cannelle. En plus de présenter des bienfaits sur notre système immunitaire, la cannelle pourrait participer à améliorer nos fonctions cognitives, dont la mémoire et l'apprentissage. Des études ont montré que l'utilisation de la cannelle ou de ses composants, dont je vous épargne le nom, pouvait modifier positivement la fonction cognitive. C'est ce qu'écrivent des chercheurs de l'Université des sciences médicales de Birjand. C'est en Iran, dans leur étude. Au total, 2600 études ont été choisies en septembre 2021 dans différentes bases de données scientifiques afin d'examiner la relation entre cette épice aromatique, la cannelle, et ses potentiels effets bénéfiques. Et ils ont ensuite sélectionné les 40 études les plus pertinentes en examinant leur conception, la taille des échantillons, les critères d'inclusion, aussi d'autres aspects méthodologiques. Et résultat, la plupart des études analysées suggéraient que la cannelle améliorait significativement la fonction cognitive, donc la mémoire et l'apprentissage. Et donc, dans un second temps, ces chercheurs iraniens ont examiné les résultats de deux études cliniques. La première étude a demandé à des adolescents de mâcher un chewing-gum à la cannelle, tandis que la seconde, qui incluait notamment des adultes pré-diabétiques, demandait aux participants de consommer 2 grammes de cannelle sur du pain blanc. Et mâcher du chewing-gum à la cannelle a amélioré la fonction de mémoire des adolescents et a diminué leur anxiété. En revanche, la seconde étude clinique n'a révélé aucun changement dans la fonction cognitive parce qu'on était sur des adultes qui avaient au moins 60 ans. D'autres études doivent donc être menées sur le sujet pour essayer de confirmer ces résultats préliminaires qui pourraient, bien sûr, s'avérer utiles afin de ralentir les troubles cognitifs. Mais donc voilà, je crois que c'est la première fois qu'on parle de la cannelle dans cette émission et c'est très rare aussi qu'on parle de l'Iran en termes de recherche médicale. Et là, on combine les deux avec cet article de Futura qui parle donc des effets surprenants sur la mémoire grâce à la cannelle. Autre information concernant toujours la médecine et concernant les nombreuses solutions pour arrêter de fumer, l'hypnose, les patchs, les gommes à mâcher. Eh bien, malgré cela, il est souvent extrêmement difficile d'arrêter définitivement et cela peut prendre de nombreuses semaines, voire de nombreux mois. Il est généralement nécessaire de s'y reprendre à plusieurs fois avant d'y parvenir. Eh bien, il y a un nouveau médicament qui promet d'aider les fumeurs à arrêter en 25 jours seulement. Ce médicament contient une molécule, la cystisine, qui est a été montré en fait qu'elle double les chances d'arrêter de fumer à 6 mois, contrairement à l'utilisation d'un placebo quand on a fait une étude. Alors, quelle est son efficacité par rapport à, par exemple, un substitut de nicotine que l'on peut avoir dans les gommes à mâcher? Eh bien, c'est ce qu'ont cherché à savoir les auteurs d'une étude qui a été publié dans la revue New England Journal of Medicine. C'est un essai qui a été mené en Nouvelle-Zélande chez plus de 1300 adultes fumeurs qui avaient envie d'arrêter de fumer. Un groupe a donc reçu cette cystisine pendant 25 jours, tandis qu'un autre groupe a reçu des substituts nicotiniques pendant 8 semaines. Ceux-ci étaient administrés sous forme de patch accompagné de gomme à mâcher. Et il y a eu un soutien psychologique par téléphone qui a été proposé aux participants. Et le critère de jugement principal de cette étude, c'était l'arrêt total du tabac à un mois. Et donc, au bout d'un mois de traitement, 40% des patients recevant de la cystisine avaient arrêté de fumer contre seulement 31% pour ceux qui recevaient les substituts de nicotine. Les résultats obtenus avec la cystisine étaient également meilleurs à une semaine, à deux mois et même à six mois après l'arrêt du traitement. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'on est quand même sur un arrêt prolongé. S'il y a eu plus d'effets indésirables dans le groupe cystisine. Et ces effets indésirables ont été jugés quand même peu graves. On était sur des nausées, des vomissements et des troubles du sommeil. C'est contraignant, c'est gênant, mais c'est acceptable, on va dire. En revanche, cette molécule présente quand même plusieurs contre-indications, ce qui limite le nombre de patients éligibles. Et là, on est quand même sur des choses assez importantes pour ceux qui sont atteints d'un infarctus du myocarde, des arythmies, des AVC, grossesse. Bref, il y a des contre-indications pour des personnes qui sont déjà atteintes de certaines maladies. En tout cas, la cystisine, elle est déjà disponible en Allemagne, en Espagne, elle est même déjà remboursée. Et les conditions pour l'obtenir, c'est d'avoir essayé d'arrêter de fumer sans succès et de fumer plus de 10 cigarettes par jour. Pour l'instant, la cystisine n'est pas commercialisée en France. Mais voilà, on est sur quelque chose d'assez prometteur et assez intéressant. On suivra bien sûr cela prochainement parce que l'éducation, bien évidemment, à faire, à suivre, bien sûr. Allez, on continue à écouter un peu de musique sur l'antenne de Graphite. Maria Magdalena, c'était Sophie Unger sur l'antenne de Graphite. On continue à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. Toujours au niveau santé-médecine, c'est un petit peu la thématique de cette émission aujourd'hui. Notre génome est équipé pour pouvoir synthétiser lui-même des molécules qui ont des effets antibactériens. L'homme produit ses propres antibiotiques. Il y aurait au moins plus de 2600 molécules qui pourraient justement avoir cet effet antibactérien. C'est une étude menée par l'université de Pennsylvanie et les propriétés physico-chimiques ont été déduites de leur séquence par un programme informatique. Et les chercheurs ont pu vérifier qu'ils ont bien des capacités antibiotiques à l'intérieur du corps humain. C'est assez intéressant et c'est une étude assez inédite à mon sens. Je n'ai pas l'impression d'en avoir, d'avoir évoqué ce sujet-là par le passé. Il y a également un médicament qui laisse espérer l'éradication avant 2030 de la maladie du sommeil transmise par la fameuse mouche Tsetse. C'est Sanofi qui met en place un traitement en prise unique par voie orale, l'acosiroborol, qui s'avère aussi efficace que les traitements intraveineux habituels. Un essai a été publié dans la revue The Lancet qui montre que 100% des patients atteints d'une forme précoce ou intermédiaire de ce qu'on appelle la trypanosomiase, eh bien, ils n'ont plus de parasites détectables 18 mois après le traitement et 96% pour les formes avancées de cette parasitose. Donc un comprimé tout simplement contre la maladie du sommeil, ça pourrait permettre donc l'éradication prochaine de cette maladie. C'est quelque chose d'assez prometteur et assez intéressant. Toujours au niveau médecine au sens large, on se demande, on voudrait bien savoir si une simple tasse de café au lait permet d'agir sur notre système immunitaire. Alors la réponse, elle nécessite bien sûr pas mal d'études sur des animaux et des humains. Il n'empêche qu'une nouvelle recherche de l'université de Copenhague suggère cette possibilité. La combinaison des protéines du lait avec les polyphénols des grains de café doublerait les propriétés anti-inflammatoires des cellules immunitaires. Les polyphénols, ce sont des antioxydants, eh bien, ce sont des alliés précieux de la santé humaine car ils contribuent à réduire le stress oxydatif qui donne lieu à des inflammations dans l'organisme. Toutefois, rares sont les études qui ont étudié l'effet combiné des polyphénols avec les acides aminés, les protéines qui constituent justement ce qu'il peut y avoir dans le lait. Et donc les chercheurs de l'étude publiée dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry ont appliqué une inflammation artificielle à des cellules immunitaires et certaines de ces cellules n'ont reçu que des polyphénols que l'on a dans le café, et d'autres ont reçu la combinaison acide aminé polyphénol, ce que l'on a dans du café au lait. Et puis il y en a d'autres aussi qui n'ont rien reçu pour avoir un groupe témoin. Résultat, les cellules immunitaires de ceux qui avaient reçu du café au lait étaient deux fois plus efficaces pour combattre l'inflammation que les cellules traitées uniquement avec les polyphénols. Il y a une deuxième étude danoise qui montre que la réaction entre les polyphénols et les protéines se produit également dans certaines des boissons au café au lait étudiées par les chercheurs. En fait, la réaction se produit si rapidement qu'il a été difficile de l'éviter dans tous les aliments que nous avons étudiés jusqu'à présent. C'est ce qu'explique Marianne Nissen-Lund du département des sciences alimentaires qui a dirigé les deux études, et elle explique que cette association bénéfique pour l'inflammation pourrait aussi se produire avec d'autres combinaisons d'aliments, l'un composé de protéines, par exemple de la viande, et l'autre de polyphénols, fruits et légumes. Reste à savoir quelle quantité de polyphénol est nécessaire, combien de tasses de café au lait faut-il boire pour que le remède fonctionne. C'est encore trop tôt pour le savoir. En tout cas, ça peut être une piste assez intéressante, parce que du coup, on voit que le fait d'ajouter du lait à son café décuplerait les effets anti-inflammatoires. Bon, affaire à suivre, bien sûr. Ce sont encore des résultats préliminaires pour des études qui doivent se poursuivre, bien évidemment. Autre chose concernant l'insomnie chronique, les personnes âgées qui prennent régulièrement ce qu'on appelle des benzodiazépines, ce sont des molécules prescrites pour traiter l'insomnie chronique, eh bien ces personnes âgées auraient presque 80% de risque supplémentaire de souffrir de démence, comme notamment la maladie d'Alzheimer, par rapport à celles qui n'en prennent rarement ou jamais. C'est une étude d'observation publiée dans la revue le Journal of Alzheimer's Disease. Bon, ça ne permet pas d'analyser les mécanismes de cette association, parce que ça mérite encore des recherches supplémentaires. Il n'empêche que ça permet d'avoir quelques constatations intéressantes. Les chercheurs américains ont analysé la consommation somnifère de plus de 3000 adultes, dont un peu plus de la moitié étaient des femmes sans démence et qui ne vivaient pas en maison de retraite. Et sur une période d'une dizaine d'années, la consommation de somnifères a été enregistrée 3 fois avec des options de réponse entre jamais, rarement, parfois, souvent, presque toujours. Et donc l'association entre prise de somnifères et démence était uniquement significative pour une consommation régulière par rapport à une consommation très rare, voire inexistante. Par ailleurs, l'étude visait à examiner si cette association variait selon l'origine ethnique. Et en effet, l'association a été observée chez les personnes blanches, mais pas chez les personnes noires. Toutefois, les personnes blanches étaient au moins 2 fois plus susceptibles de prendre des benzodiazépines par rapport aux autres personnes. Et donc, Wei Lang, qui est responsable du département de psychiatrie des sciences du comportement de l'Université de Californie, a déclaré que les patients qui dorment mal devraient hésiter avant d'envisager la prise de médicaments. La première étape consiste à déterminer le type de problème de sommeil dont souffrent les patients. Si l'insomnie est diagnostiquée, la thérapie pour l'insomnie est le traitement de première intention. Mais si un médicament doit être utilisé, eh bien, la mélatonine pourrait être une option plus sûre. Mais nous avons besoin de plus de preuves pour comprendre son impact à long terme sur la santé. Donc voilà, prendre des somnifères augmenterait le risque de démence de près de 80%. C'est ce qu'explique cette étude. Mais là encore, nous sommes toujours dans le début d'une étude qui mérite bien sûr un approfondissement un peu plus conséquent. Allez, on l'écoute encore un autre titre sur l'antenne de Graphite et puis on continue comme ça à feuilleter l'actualité scientifique. Schrödinger's Pipe, c'était Chip Vine sur l'antenne de Graphite. Une étude de l'Université technique du Danemark porte sur des analyses d'ADN bactérien de plus de 700 échantillons d'eau usée de 101 pays. C'est une étude assez importante qui dévoile les régions où les gènes liés à la résistance aux antibiotiques sont les plus nombreux. Et donc, du coup, on constate que l'Afrique subsaharienne rassemble les États au plus fort taux. Les chercheurs appellent à une surveillance mondiale de l'évolution de la situation parce que la résistance élevée aux antimicrobiens, bien sûr, va être ce qu'on appelle l'antibiotique. antibiorésistance est assez néfaste, bien sûr. Donc cette carte qui, vous pouvez trouver notamment dans Science et Avenir de février, donne les résultats de cette étude de l'université du Danemark. L'université du sud de l'Illinois aux États-Unis montre que plus de 3000 enfants ont fait l'objet d'un signalement après avoir ingéré accidentellement du cannabis. C'était aux États-Unis au cours de l'année 2021. Ils étaient un peu plus de 200 en 2017. Ils se sont retrouvés à plus de 3000 en 2021, une augmentation assez importante corrélée à la légalisation du cannabis récréatif dans un nombre croissant d'États américains. Et donc, ces enfants, 3000 intoxiqués au cannabis en 2021, et ça ne cesse que d'augmenter. Enfin, l'université Duke aux États-Unis donne cette information et cette première mondiale, une maladie génétique qui a été traitée avant la naissance. Un fœtus atteint d'une maladie génétique musculaire rare et potentiellement mortelle, ce qu'on appelle la maladie de Pompe, eh bien, ce fœtus a été traité avec succès in utero, c'est-à-dire dans l'utérus directement, par ce qu'on appelle une enzymothérapie qui a été administrée via le cordon ombilical. Cet essai a permis à l'enfant, aujourd'hui âgé de 18 mois, de se développer normalement. Et elle est donc guérie grâce à une intervention sur le fœtus. Cet enfant s'appelle Ayla et elle a 18 mois actuellement. Voilà, donc toutes les informations et les précisions et les compléments d'informations sur Science et Avenir. Toujours au niveau médecine, on va parler des aliments ultra transformés. C'est un aliment dont les ingrédients d'origine ont subi des transformations chimiques, physiques, biologiques, notamment par des procédés industriels et qui contiennent des additifs. Les additifs, hein, ce sont ces ingrédients industriels qui ne sont pas utilisés dans la cuisine maison, qui ne sont pas disponibles pour les particuliers, mais que l'on a éventuellement dans énormément de produits de consommation courante, le glutamate, le maltodextrine, l'amidon modifié. Ils sont utilisés pour améliorer le goût, l'apparence ou la conservation des aliments. Quelques exemples, bien sûr, on en a dans les sodas, dans les cordons bleus, les nuggets, les soupes de légumes, déshydratés, les gâteaux industriels, les bonbons, les substituts de repas et leurs effets néfastes sur notre santé sont de plus en plus étudiés. Une équipe de chercheurs a souhaité étudier le lien entre la consommation d'aliments ultra transformés et le risque de développer un cancer et la consommation aussi de ces aliments et le risque de mortalité par cancer. Les résultats ont été publiés dans la revue The Lancet. C'est un groupe assez important qui a été analysé. C'est ça qui est intéressant, parce que c'est un groupe de presque de 200 000 personnes, des adultes britanniques âgés entre 40 et 69 ans, qui ont participé à cette étude. Et de 2009 à 2012, ils ont renseigné tous les aliments consommés sur des périodes de 24 heures. Et ces aliments ont été classés selon leur degré de transformation. La consommation d'aliments ultra transformés des participants a été exprimée en pourcentage de l'apport alimentaire. L'état de santé des participants a été suivi jusqu'en 2021. Donc on est aussi sur une étude assez longue, c'est ça qui est intéressant. Et les associations ont été pondérées, c'est-à-dire qu'on a, dans cette analyse, on prend bien sûr en considération l'âge, le sexe des participants, le statut tabagique, c'est ce que ce sont des fumeurs, l'activité physique, la consommation d'alcool, leur poids et ainsi de suite. Et en moyenne, les participants consommaient 23% d'aliments transformés dans leur alimentation. Et durant le suivi, il y a eu plus de 15 000 personnes qui ont développé un cancer et plus de 4 000 qui sont décédées de leur cancer. Et sans surprise, plus les personnes avaient un fort taux de consommation d'aliments ultra transformés, plus le risque de survenue d'un cancer était important, survenue particulièrement avérée pour le risque de cancer de l'ovaire. Plus précisément, chaque hausse de 10% de consommation d'aliments ultra transformés entraînait une hausse de 2% du risque de survenue d'un cancer. De même, la consommation d'aliments ultra transformés était associée de façon proportionnelle au risque de décéder d'un cancer, et cela s'est révélé principalement pour le risque de décéder d'un cancer du sein ou d'un cancer de l'ovaire. Donc voilà, on est sur des analyses à grande échelle, sur des grands panels, sur des grandes durées. Donc ça peut avoir quand même un certain poids scientifique sur cette conclusion qui est que les aliments ultra transformés augmentent le risque d'avoir un cancer et d'en mourir. Quelque part, c'est peut-être pas nécessairement une surprise. vu la malbouffe qu'il règne parfois au niveau de l'industrie agroalimentaire. Allez, on écoute un dernier titre avant de nous quitter sur l'antenne de Graphite.
Parler, écoutez-nous, on ne veut pas de votre armée en bas chez nous, viens voir dans nos quartiers, c'est cool, c'est nous, mais ça pourrait barder si on déboule chez vous, vous faites que parler, écoutez-nous, on ne veut pas de votre armée en bas chez nous, viens voir dans nos quartiers, c'est cool, c'est nous, mais ça pourrait barder si on déboule chez vous.
Écoutez-nous, on en a marre de manger vos matraques, on défend le vivant et le gouvernement nous attaque, vos médias nous boycottent et nous font passer pour des macaques. Le dressage assis, couché debout dans la patrouille. On a des choses à dire et des vraies idées à défendre. Institutions racistes, je perds le monde depuis ma naissance. Libre penseuse comme Yanis, dans une industrie indécente. Pour les frères, rester sur le parvis. Pour les sœurs, en quête de vrai sens. Avant que le dialogue soit annihilé, sais-tu ce que c'est grandir dans les inégalités? Tu sais, la frustration prend forme et les rêves brisés transforment les extraits vers un braqueur ou mec radicalisé. Écoutez-nous,
vous avez tendance à jouer les étonnés. La vie ne vous dérange pas tant que c'est de votre côté. Changer.
Vous faites que parler, écoutez-nous, on ne veut pas de votre armée en bas de chez nous, viens voir dans nos quartiers, c'est cool, c'est nous, mais ça pourrait barder si on déboule chez vous. Vous faites que parler, écoutez-nous, on ne veut pas de votre armée en bas de chez nous, viens voir dans nos quartiers, c'est cool, c'est nous, mais ça pourrait barder si on déboule chez vous.
Je me suis levé avec l'envie d'en découdre, fatigué chaque jour que Dieu fait de devoir, je découdre. Je suis décidé, j'ai mes idées, quoi qu'il en coûte, je viens de causer, faire exploser un système qui me dégoûte. Il nous pousse à bout et il nous roule dans la boue, le tout pendant qu'il s'accoule d'eau.
Ça craque dans la foule,
nos droits on bafoue pendant qu'on s'écroule sous les coups. Garde à vue, garde à vous, ghetto youth, écoutez-nous. Je vais pas te détailler tout ce qu'on subit comme misère, la liste est trop longue, on en aurait pour l'hiver. Mais s'asseoir à trois sur un homme, monsieur le commissaire, toi tu n'appelles pas ça une bavure policière. Alors écoutez, écoutez-nous, si c'est comme ça on peut se passer de vous. Alors écoutez, écoutez-nous, on vous prévient que la jeunesse est
tout.
Vous ne faites que parler, écoutez-nous, on ne veut pas de votre armée en bas de chez nous, viens voir dans nos quartiers, c'est cool, c'est nous, mais ça pourrait barder si on déboule chez vous. Vous ne faites que parler, écoutez-nous, on ne veut pas de votre armée en bas de chez nous, viens voir dans nos quartiers, c'est cool, c'est nous, mais ça pourrait barder si on déboule chez vous.
Que meurt la condescendance, grandit celui qui écoute. Et toi dis-moi ce que tu en penses si la police tape et dépouille. Tu parles de justice en franc, mais à vue d'œil on s'en fond. Combien de jeunesse en tension, combien de révoltes que l'on étouffe.
On a trop se poser des questions sur l'état de nos conditions. Le peuple est à l'abandon et ce n'est pas qu'une simple impression. La morale, longtemps qu'ils en font abstraction, vont à l'inverse de leur fonction. Terrorise la nation, ce n'est pas normal.
Encore combien de générations humiliées, pointées du doigt, mais en quête d'élévation, en pleine dégénération.
On continuera nos actions sans qu'il y aura de l'exaction. Kenny donne la conclusion, ça va faire mal.
Vous ne faites que parler, parler. Sans gêne, toutes les ondes sont à vous. Inventez toujours des problèmes quand les vrais problèmes sont à vous. Qui profite quand le vase est trop plein? Qui profite quand le peuple est à genoux, libre et égaux devant Dieu? Dis-leur que c'est vrai, le monde est à nous.
Vous ne faites que parler, écoutez-nous, on ne veut pas de votre armée en bas de chez nous, viens voir dans nos quartiers, c'est cool, c'est nous, mais ça pourrait barder si on déboule chez vous. Vous ne faites que parler, écoutez-nous, on ne veut pas de votre armée en bas de chez nous, viens voir dans nos quartiers,
C'était Écoutez-nous, Yanis Audua sur l'antenne de Graphite. Et c'est avec Yanis Audua que nous terminons cette émission. Merci à vous de votre attention, de votre fidélité. Tous les samedis, entre 12h et 13h, on parle de l'actualité scientifique. On essaye d'apprendre un petit peu plus sur ce qui se passe dans les laboratoires du monde entier. Et quelque part, c'est un petit peu notre vie. C'est notre futur. Et là, c'était une thématique orientée plutôt médecine. On continuera toujours cette thématique médecine la semaine prochaine parce que j'ai encore plein d'articles que je n'ai pas eu le temps d'évoquer avec vous, notamment le fait que la procrastination, j'arriverai pas à le dire, augmente le risque d'être en mauvaise santé, et l'obésité qui provoque des anomalies dans le cerveau comme une maladie neurodégénérative également. Donc il y a pas mal d'études qui sont menées, et puis on parlera aussi des sujets peut-être un peu plus légers bien sûr, et concernant d'autres domaines, l'énergie, les transports, l'espace, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle. Il y a pas mal de choses que nous évoquerons la semaine prochaine à 12h. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve samedi prochain sur l'antenne de Graphite. À bientôt, au revoir.